Alors, bonjour Madame Denise Boulanger, merci de participer à cette entrevue sur les innovations technologiques et les soins à domicile. Donc, Madame, vous êtes inhalothérapeute au CLSC Saint-Hubert. Vous êtes aussi membre du conseil d'administration de l'Association pulmonaire du Québec. Et ça, c'est un organisme dont la mission est de promouvoir la santé respiratoire et de prévenir les maladies pulmonaires par la recherche, l'éducation et les services. Donc, en guise d'introduction, Madame Boulanger, est-ce que vous pourriez nous rappeler quel est le rôle d'un ou d'une inhalothérapeute?
Oui, bien sûr. Alors, ça me fait plaisir de participer à cet entretien. Alors, un inhalothérapeute, c'est un professionnel de la santé qui travaille avec les personnes atteintes de problèmes respiratoires tels que l'asthme, la bronchite chronique, l'emphysème, l'apnée du sommeil et la fibrose pulmonaire, entre autres. Il travaille, les inhalothérapeutes travaillent dans plusieurs champs d'activité, principalement dans les hôpitaux, on les retrouve aux soins intensifs, à l'urgence, en salle d'opération, en assistance à l'anesthésie. En centre d'enseignement aux asthmatiques, dans les centres de rééducation respiratoire, dans les soins à domicile, dans les CLSC et également dans les compagnies privées.
D'accord. Donc, plus particulièrement dans les soins à domicile, par exemple, quel serait le type d'intervention que vous faites sur un patient? Pour un patient typique, disons, de votre profession?
C'est ça. Alors nous, la clientèle que l'on visite à domicile, c'est principalement des personnes âgées qui sont atteintes de MPOC. Donc on sait que la MPOC, ça regroupe deux grandes maladies, c'est-à-dire la bronchite chronique et l'emphysème.
D'accord.
Et ce sont des gens, c'est ça, qui ont besoin de beaucoup de support à domicile, on leur fait beaucoup d'enseignements pour leur permettre de, bon, premièrement, mieux connaître leur maladie, l'apprivoiser parce que c'est une maladie chronique. On s'entend. Alors, il faut qu'ils soient, faut qu'ils acceptent qu'ils sont pris avec un problème comme celui-là, et donc de reconnaître leurs symptômes de détérioration et d'apprendre aussi à vivre avec cette maladie-là. Donc, c'est des gens qui sont très très anxieux. Alors, il faut les entourer beaucoup.
D'accord. Et vous-même, vous êtes principalement active au domicile des patients, hein, si j'ai bien compris.
C'est bien
et,
ça.
Et quel type de technologie et de procédure êtes-vous amenée à utiliser?
Alors, principalement, on les appelle des concentrateurs d'oxygène. Ce sont des appareils qui fonctionnent à l'électricité, qui fabriquent de l'oxygène à même l'air ambiant.
D'accord.
Donc, chez les MPOC, souvent les gens ont une baisse du taux d'oxygène dans le sang, donc il faut leur donner un apport supplémentaire d'oxygène. C'est le principal équipement. Il y en a aussi d'autres, là, les CPAP, les appareils pour traiter l'apnée du sommeil. On fait aussi, on utilise également des appareils pour faire des tests diagnostiques à domicile.
D'accord. Est-ce que ce sont des technologies qui demeurent, qui restent au domicile des patients, ou est-ce que c'est du matériel que vous transportez avec vous?
Les concentrateurs et les CPAP et même les compresseurs d'aérosol, ce sont des appareils qui demeurent chez les patients.
D'accord.
Tandis que les tests diagnostiques, c'est vraiment des petits appareils, c'est pas très volumineux, qu'on apporte, qu'on laisse souvent pour une journée ou pour une nuit. Et donc, la personne fait le test, c'est enregistré et nous, ensuite, on transfère les données sur ordinateur.
Donc là, vous parlez de données, donc de toute évidence, l'informatique est entrée dans votre champ professionnel. Donc, en quoi le développement technologique des soins à domicile, précisément peut-être par l'informatisation, a-t-il modifié votre pratique professionnelle à vous?
Bien, si on parle de tests diagnostiques, l'informatique va être surtout utilisée pour les tests diagnostiques.
Mm-hmm.
Pour ce qui est des autres appareils, il y a les CPAP aussi qui maintenant ont une espèce de petit logiciel, mais nous, en CLSC, c'est pas des techniques qu'on utilise parce que ça demande beaucoup, beaucoup d'équipement et c'est plus les compagnies privées, les inhalothérapeutes qui travaillent pour les compagnies privées.
D'accord.
En soins respiratoires vont plus utiliser ces techniques-là.
D'accord.
Nous, par rapport à l'informatique, c'est vraiment pour les petits tests diagnostiques.
Mm-hmm.
Mais pour ce qui est des concentrateurs, tout ça c'est vraiment, il y a aucune informatique là, qui
c'est vraiment
qui entre.
c'est mécanique, là.
C'est bien, c'est ça.
OK. Et vous-même, est-ce que vous avez dû suivre une formation spécifique pour l'utilisation de ces technologies?
C'est
partie de votre pratique, disons, de votre formation initiale?
Oui, maintenant ça fait partie les soins à domicile. Maintenant ça fait partie du cours d'une allothérapeute proprement dit.
D'accord.
Moi, quand j'ai fait mon cours, il y a quand même plusieurs années de ça, ça ne faisait pas partie encore de du programme. Alors j'ai dû apprendre là. Sur le champ finalement et apprendre des. C'est sûr qu'on a des on a toujours des sessions d'information pour tout ce qui est les nouveaux équipements
les
qui sortent. Hein. C'est ça, les nouveautés, faut se tenir à jour. Alors les compagnies viennent nous rencontrer, ils nous font beaucoup d'enseignements, on fait les essais, etc. Puis c'est sûr qu'avec les compagnies, c'est bien parce que nous, on les utilise avec les personnes sur le terrain, comme on peut dire. Donc, c'est avec ces informations-là que les compagnies peuvent améliorer les équipements utilisés à domicile.
Ah, c'est intéressant. Et quels avantages est-ce que vous voyez dans les soins à domicile, surtout dans le cadre des maladies respiratoires? Qu'est-ce que ça permet au niveau thérapeutique? La qualité de vie, j'imagine, des patients, une meilleure...
Oui. Principalement, c'est sûr que le programme de soins à domicile en allothérapie permet aux gens de rester à la maison, de pouvoir demeurer à la maison, d'avoir un encadrement pour pouvoir justement, parce que les personnes atteintes de problèmes respiratoires, ce sont des gens qui fréquentent beaucoup les salles d'urgence et les cabinets de médecins.
Oui.
Donc depuis qu'ils ont instauré les suivis de soins respiratoires à domicile, les visites à l'urgence et dans les bureaux de médecins ont diminué énormément. Parce que, justement, ils ont un lien avec un professionnel de la santé. Alors, dès qu'il y a quelque chose, c'est rassurant.
Oui.
C'est très rassurant et les patients nous le disent. Quand vous venez me voir, après ça, je suis content parce que là, je sais que ça va bien. Parce que souvent, ils ont des petites inquiétudes. Puis si, quand on va les voir, on les rassure, on leur dit, bon, ben OK, ça c'est bien, mais surveillez tel symptôme. Si vous voyez que ça se détériore, appelez-nous. Alors, puis nous, on a des ententes avec les pneumologues, avec les hôpitaux, on a des protocoles qu'on appelle, qu'on peut appliquer. Alors, on a une certaine lassitude là, pour commencer des traitements d'antibiotiques, de cortisone, pour traiter à la maison, pour justement éviter que ces gens-là se retrouvent dans un milieu où est-ce que c'est très... c'est plein de risques d'infection, etc., parce qu'ils sont très, très à risque, ces gens-là.
Est-ce que leur responsabilité s'en trouve, du coup, un peu accrue, le fait d'avoir des soins à domicile? Est-ce qu'ils deviennent plus responsables de leurs propres soins, de leur propre santé?
Absolument. Ce sont des gens qui... c'est sûr qu'on fait beaucoup d'enseignements. On fait beaucoup d'écoute aussi. Hein? Ça
oui.
prend... Ça fait du soin à domicile, il faut aimer, faut avoir une grande écoute, c'est ça. Et effectivement, ce sont des gens qui doivent, s'ils veulent améliorer leur qualité de vie, ils se doivent de prendre en considération tous les petits signes qu'ils peuvent avoir. Donc, il y a des personnes qui captent ça assez rapidement, mais il y en a d'autres qu'on a besoin de suivre un peu plus, puis d'insister, c'est ça.
Est-ce qu'ils sont amenés à utiliser les technologies eux-mêmes?
Oui, c'est eux qui utilisent leurs propres petits appareils là. C'est ça, parce que ils doivent savoir comment ça fonctionne. C'est sûr qu'ils ont toujours un service téléphonique en cas d'urgence et des appareils. C'est la mécanique, alors ça peut briser. Mais pour ce qui est du fonctionnement, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui sont sur oxygène 24 heures par jour.
Okay.
Donc, s'ils veulent sortir, ils ont des petits systèmes portatifs. Ça aussi, des fois, ça prend un petit peu de manipulation, savoir comment changer le cylindre d'oxygène lorsqu'il est vide, manipuler ça, mais ça, ils finissent par l'apprendre, c'est ça. Ça prend beaucoup de sport.
Et à votre avis, quels sont les défis qui sont associés à l'utilisation des technologies à domicile? Quels sont les éventuels défis auxquels sont soumis soit les patients, soit les professionnels?
Le défi principal, c'est vraiment c'est pour le patient. Pour le professionnel, pour nous, la technologie, c'est pas c'est pas des choses qui sont très compliquées, là. C'est des appareils très simples. C'est plus pour le patient, pour apprendre à manipuler, apprendre à bien l'utiliser pour que ce soit sécuritaire aussi,
voilà.
là.
Oui.
C'est plus à ce niveau-là que ça.
Voilà. D'accord.
Oui.
Et à votre connaissance, comment les politiques de financement des soins à domicile, et plus particulièrement celles qui concernent la prise en charge des maladies respiratoires, comment ces politiques ont-elles évolué ces dernières années? Est-ce que...
Oui, ça a évolué. J'aimais beaucoup cette question-là parce que, effectivement, ça a évolué dans le sens que, bon, il y a beaucoup plus d'inhalothérapeutes dans les CLSC qui permettent des bons soins à domicile. Il y a des fonds qui sont quand même disponibles pour acheter des équipements, etc. On a des bons partenariats aussi avec les hôpitaux et d'autres centres de rééducation et tout ça. Ce qui est dommage, je trouve, dans notre politique de financement ici au Québec, c'est que ce n'est pas uniforme partout au Québec.
D'accord.
Alors, dépendamment de la région où vous demeurez, les soins que vous avez droit ou que vous pouvez recevoir peuvent varier d'un endroit à l'autre.
D'accord.
Alors, moi, je trouve ça très dommage parce que...
C'est injuste, en fait.
C'est injuste. C'est très, très injuste. Et dépendamment, c'est ça. Puis ça peut être des régions très, très proches l'une de l'autre qui vont avoir des grosses différences.
D'accord.
Alors, moi, je trouve ça un peu dommage qu'il y en ait qui soient brimés à cause de ça.
Oui, OK. Et qu'y a-t-il à améliorer pour s'assurer que les technologies soient mieux adaptées aux patients? Donc, vous nous parlez tout à l'heure que vous, en tant que professionnel, vous avez des contacts de rétroaction avec l'industrie, en fait.
Oui.
Vous pouvez leur donner un peu votre avis sur ce qu'on pourrait améliorer, mais en général, qu'est-ce que vous pensez que les technologies, à quels besoins les technologies devraient mieux répondre aujourd'hui?
Alors, moi, je pense que c'est dans le fond, c'est très simple, hein, parce que les gens, ce qu'ils ont besoin, c'est quelque chose de très simple aussi. Alors, essayer de simplifier davantage, de réduire aussi le format des appareils. Ça a l'air un petit peu bizarre à dire, mais effectivement, hein, quelqu'un qui se promène avec une bonbonne d'oxygène, il y a quand même un poids relié à ça.
Bien sûr.
Si on sait que c'est des personnes âgées. Donc, plus ces appareils-là sont petits et portables, mieux c'est. Pour ce qui est des concentrateurs aussi d'oxygène à la maison, maintenant, là, tout récemment, on a fait l'achat de nouveaux appareils et ils sont vraiment très, très, très silencieux. Ça aussi, c'est un appareil qui fonctionne dans la maison, qui est très, très bruyant. Ça peut finir par être agaçant autant pour le patient que pour l'entourage.
Bien sûr.
Alors, ça, ils ont amélioré ça, donc on était très contents. Les patients aussi sont très contents de ça. Alors, c'est plus à ce niveau-là là, que les améliorations se font.
D'accord.
Pour bénéficier.
Et pour terminer, quel est le rôle de l'Association pulmonaire du Québec dans le cadre du développement des soins à domicile? Est-ce qu'elle émet, par exemple, des avis sur les innovations technologiques ou sur les nouvelles procédures que vous mettez en place?
Pour ce qui est des innovations technologiques, c'est pas vraiment leur mandat. Leur mandat, c'est beaucoup plus d'apporter de l'argent pour des plans de recherche sur les maladies respiratoires, principalement. Et ils ont un très, très grand rôle par rapport à l'éducation à la population. Donc, informer la population sur les maladies respiratoires, les mises en garde contre les allergies, etc., l'arrêt tabagique. Alors, c'est beaucoup plus leur mandat, là, c'est d'informer, d'éduquer.
Ils ont un rôle de communication important.
De communication, voilà.
Voilà. Et quels sont les moyens, quels sont les canaux de communication principaux de l'association aujourd'hui? Bon, vous avez un site web, évidemment, j'ai vu.
Oui.
Est-ce qu'il y a d'autres actions, événements ou...
Absolument. Le site web, effectivement, qui est disponible à tout le monde. Il y a les lignes téléphoniques. Il y a des lignes téléphoniques pour de l'information. Donc, c'est un professionnel de la santé qui répond à leurs questions. Si ils ne peuvent pas répondre, où ils peuvent même les diriger vers d'autres endroits pour l'information. Ils ont des kiosques d'information, ils peuvent aller dans les entreprises.
Okay.
Il y a des conférenciers qui peuvent aller dans les écoles également. Il y a des kiosques d'information pour, par exemple, il y a eu le salon de l'environnement.
Oui.
Tout récemment. Alors, l'association pulmonaire avait un kiosque là pour, principalement pour l'ambrosia, l'herbe à poux, l'arrachage de l'herbe à peau pour diminuer les allergies. Alors, c'est des exemples
d'action.
Voilà.
Madame Boulanger, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une excellente journée.
Merci, ça m'a fait plaisir de participer à cette entrevue.
Au revoir, madame.
Au revoir.